18h02, on accueille notre ami Paulude pour son tour du monde de la COVID. Salut, Paul.
Salut, Patrick. Encore une chronique optimiste.
Oui, parce que tu veux nous parler de la course au vaccin. Hein? Il semble que c'est pas un marathon, c'est un sprint.
Ça a commencé au début, on disait, la production d'un vaccin qui exige 3 phases critiques. On disait, c'est un ultra-marathon. Après, l'optimisme s'est installé, c'est un marathon. Eh bien, je t'annonce aujourd'hui, et c'est pas moi qui t'annonce, c'est surtout tout ce que j'ai amassé comme documentation, c'est maintenant un sprint. Si ça continue, c'est Usain Bolt qui va trouver le vaccin.
Non, mais ce que tu veux dire, c'est que la course s'accélère, il y a plusieurs groupes, puis ça va très, très vite.
Ça va très vite et très bien. C'est ça l'affaire. C'est que en ce moment, au moment où on se parle, il y a le vaccin d'Oxford, qui avance à une vitesse absolument incroyable. On va accélérer et surtout augmenter le nombre de cobayes, entre guillemets, d'ici, je te dirais, la fin août. Donc, début septembre à peu près, là, on va avoir les premières études concluantes. Et en ce moment, il y a 5 vaccins candidats qui sont testés en Chine, stade avancé, et 4 qui sont testés aux États-Unis, stade en progression vers avancé. C'est intéressant quand même.
Très intéressant.
Et ça, c'est quand tu calcules qu'il y a environ 125 laboratoires qui cherchent la même chose. Donc, il y a la colonelle Wendy Jackson, parce que l'armée est impliquée aussi aux États-Unis dans sa section des maladies infectieuses. Elle est convaincue qu'un vaccin sera disponible d'ici la fin de l'année. Pas découvert, disponible d'ici la fin
Donc,
de l'année.
Donc, découvert, fabriqué, distribué.
Oui. Et un autre chercheur militaire américain, le docteur Mojarrad, a rappelé qu'on a percé tellement de mystères du coronavirus plus rapidement qu'on l'aurait jamais fait pour tout autre virus. C'est vraiment incroyable la charge de travail qui a été réalisée à travers le monde. On a des laboratoires ici au Québec qui travaillent à la production d'un vaccin. Et sais-tu qu'est-ce qui a été l'élément clé dans l'accélération? C'est la connaissance, la compréhension du mécanisme de fonctionnement de ce qu'on appelle les glycoprotéines. C'est les petits pics.
Ah, ce qui permet au virus de coller, là.
Exactement. Moi, j'appelle ça des pop-corn parce que dans la représentation en 3D, ça ressemble à des morceaux de pop-corn. Là, non seulement on connaît tout du coronavirus, mais en plus, son fonctionnement à partir des glycoprotéines S, ces petits pop-corn, et le mécanisme qui leur permet de pénétrer nos cellules hôtes humaines. Il y a 2 types de cellules, ACE2 et une autre, là c'est compliqué, TMP, RSS2. Ça, ce sont nos cellules qui se font leurrer par le glycoprotéine. Mais là, maintenant, on commence à comprendre comment, à notre tour, leurrer les glycoprotéines du coronavirus pour mieux le déjouer et l'empêcher de se multiplier dans le système. C'est vraiment remarquable. Je te dis, la quantité de découvertes qui ont été faites, remarquable.
Parle-nous du lien entre cette course au virus puis la course à l'espace. On parle d'un moment Spoutnik.
Un article extrêmement intéressant de 2 journalistes féminines, Caroline Johnson et Eva Doux, dans le Washington Post. On compare désormais cette course, ce sprint, au vaccin, à celle qui a eu lieu dans les années 50, la course à l'espace. Tout le monde est à la recherche de ce qu'on appelle le moment Spoutnik. Alors, je t'explique. Le 4 octobre 1957, au grand désarroi des Américains, on entend bip, bip, bip. Les Soviétiques viennent de placer le tout premier satellite en orbite autour de la Terre. Une toute petite boule en métal, une petite sphère qui avait été baptisée Spoutnik 1. Donc, dans les labos, là, on se passe le mot, là, on dit on est à la recherche de l'effet Spoutnik. Et la course maintenant au vaccin est devenue politique. Parce que d'abord, les risques financiers sont énormes. Rien ne garantit le succès. Et là, maintenant, c'est la course au pays qui va obtenir le premier succès. C'est-à-dire déclarer, nous avons trouvé le vaccin, on l'a testé, il fonctionne. Qu'est-ce que ça fait? Évidemment, ça fait que on pourra vacciner sa population locale en premier, relancer son économie à 100% et probablement plus que 100%.
Oui, parce que là, tout le monde va pouvoir être déconfiné. Ah, ben oui.
Là, ça va être, écoute, pesé sur l'accélérateur.
Peux-tu te dire qu'il n'y aura pas dans... Si la Chine découvre ça, les Américains vont l'obtenir pas mal plus tard?
Les Américains se disent... Le docteur Fauci a dit qu'il se dit confiant que malgré les relations tendues, ça n'empêcherait pas les deux pays de se partager un vaccin. Mais je partage pas le même optimisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire le prestige historique pour une nation. Prends la Chine. La Chine en a fait de la découverte de ce vaccin un devoir national afin, évidemment, d'effacer les reproches qu'on fait au gouvernement de Xi Jinping pour avoir caché la gravité de la situation en janvier. S'ils découvrent le vaccin, on va oublier qu'ils avaient caché des choses. Ah, c'est vraiment fascinant, fascinant la quantité de découvertes qui ont été réalisées depuis qu'on a commencé à se parler de la pandémie, là, il y a près de 3 mois.
OK, deuxième sujet, on reste sur la question du vaccin, parce que Justin Trudeau était aujourd'hui virtuellement, évidemment, là, en visioconférence, à un grand sommet international de 50 pays.
Oui, c'était extrêmement important que je t'en parle. Justin Trudeau participait virtuellement. C'est un sommet de 50 pays qui était présidé par le premier ministre britannique Boris Johnson, qui lui parlait en connaissance de cause puisqu'il a attrapé la COVID-19 et qu'il a eu des symptômes très graves. Il a pensé y passer. Et Justin Trudeau, il s'est positionné habilement dès le départ. Je t'explique. Il a soutenu qu'un vaccin approuvé, peu importe son origine, devra être offert partout dans le monde en même temps et en tenant compte des pays pauvres et de leur capacité de se l'offrir. Et il a raison. Je vais t'expliquer pourquoi. Cette pandémie, elle est mondiale. À un moment donné, nous étions 5 milliards d'êtres humains confinés, qui n'avaient pas le droit de sortir. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus dire « Oh, c'est... il y a un pic dans tel pays, ça ne nous affecte pas, c'est pas vrai. » Justin Trudeau a dit « Des gens malades maintenant de la COVID-19 dans n'importe quel pays du monde, c'est une menace pour notre propre sécurité. » Là-dessus, il a fait un discours vraiment très bien. Et c'est très important pour le Canada qui cherche à obtenir un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations unies. Le Canada est en concurrence avec l'Irlande et la Norvège pour obtenir ce siège très important. Et je pense que la performance de Justin Trudeau aujourd'hui là a marqué des points. Et il y a une alliance internationale maintenant qu'on appelle le Gavi. Le Gavi, c'est pour Global Alliance for Vaccines and Immunizations, pas facile à dire, parrainé. Et surtout créé par Bill et Melinda Gates, on veut amasser 10 milliards de dollars pour en arriver à cette, comment qu'on pourrait appeler ça, à ce nirvana.
C'est Eldorado.
Oui, exactement. Ce Saint Graal de la découverte d'un vaccin qui s'en vient. Je te dis, ça s'en vient.
Bon, ben écoute, on se croise les doigts, mais avant de se croiser les doigts, on va essayer d'enlever les rides dans notre front, Paul, parce que comme troisième sujet, on le sait, confinement veut dire plusieurs privations, donc privé de Botox pour plusieurs personnes. Mais il semble qu'en Floride, on ait trouvé une solution.
Mais c'est un service essentiel.
Mais
non, mais j'ai l'air à douter. Voyons donc, si la fée des dents, à un moment donné, tu t'appelles ça, la fée des dents, était un service essentiel.
Oui.
Le Botox, c'est un... Mais c'est parce que toi, t'es trop jeune, c'est ça le problème. Ça te touche pas, hein, je sens ça, là. Écoute, la meilleure, jusqu'ici, dans nos chroniques, on s'est parlé des messes à l'auto en Pologne.
Oui,
Non, en Italie.
Les confessions à l'auto en Pologne.
En Pologne, les bénédictions à l'aide de pistolets à eau à l'auto. Et les danseuses érotiques en Oregon à l'auto.
Oui, mon Dieu.
Eh bien, cet après-midi, nous ajoutons au progrès de l'humanité des injections de Botox à l'auto. Et c'est offert par le chirurgien plasticien, le docteur Michael Salzauer, mais il a un nom allemand trop compliqué. Alors, il est connu sous le nom de docteur Miami.
Okay.
Est-ce que tu irais consulter le docteur Miami?
Je suis sûr qu'il y a des cliniques locales... Qui peuvent nous donner ces services-là.
Oui, mais lui, il est presque milliardaire parce que c'est un chirurgien plasticien dans le quartier de Bal Harbour, près de Miami, un des quartiers les plus riches de la Floride. L'idée lui est venue en passant un test de COVID-19 à l'auto. Il décide d'aller à un coin, il y avait un point de rassemblement à son centre commercial, puis je vais aller passer un test de COVID, et il s'est mis en ligne avec d'autres voitures, puis il a dit, mais pourquoi je ne fais pas la même chose pour mes clients ou mes patients en leur injectant du Botox? Et donc, cette idée-là, il l'a transférée. D'ailleurs, tu vas comprendre pourquoi il est millionnaire. Il faut que tu t'inscrives en ligne pour prendre un rendez-vous avec ton numéro de plaque d'auto. Et c'est 600 piastres américains, quand même.
Y a-tu une garantie? T'es-tu plus beau après ça?
Non, il y a eu des horreurs. Va sur Internet, il y a eu des horreurs de Botox.
Ah oui.
Des visages qui ont très mal tourné. Et dans son CV, le docteur Miami dit qu'il est une vedette de télé-réalité en Floride.
Très drôle. Parfait. Merci, Paul. On s'en parle demain.
À demain.
18h, presque 13. On prend une petite pause. Martin Junot s'en vient. Et Alain Pronkin aussi, spécialiste des religions, qui a un nouveau livre sur la religion catholique et ses nombreux péchés.